L'injustice alimentaire, témoignage forésien. Un web documentaire des monts qui pétillent pour Caravalim.
Ingénieur agroalimentaire et chercheur en alimentation préventive et durable à Clermont-Ferrand, Anthony Fardet alerte depuis de nombreuses années sur les méfaits des aliments ultra-transformés. Ici, il revient sur les arguments scientifiques et nutritionnels, mais il développe aussi le volet social. Comment l'on constate que plus les revenus baissent, plus le quantitatif l'emporte sur le qualitatif, avec de forts impacts sur la santé comme sur l'environnement. Il propose néanmoins des pistes de solutions, d'une évolution de la fiscalité sur les produits ultra-transformés à une règle simple des 3V pour acheter sain, durable et bon, sans surcoût. Un témoignage recueilli le 29 août 2025 par Damien Caillard pour l'association Les Monts qui pétillent.
Anthony Fardet, je suis de formation ingénieur agroalimentaire de l'AgroParisTech et j'ai fait ensuite un doctorat à l'Université d'Aix-Marseille et ça fait aujourd'hui à peu près 27-28 ans que je fais de la recherche en alimentation préventive et depuis plus d'une dizaine d'années durable. Mon fil rouge, c'est transformation des aliments et santé globale, c'est-à-dire comment la transformation impacte le potentiel santé de l'aliment, mais aussi l'environnement. Et puis l'autre projet qui est un laboratoire vivant, un gros projet européen de 4 ans qui termine dans un an, où on travaille avec 350 enfants dans 12 écoles sur l'amélioration de comportements alimentaires qui ont un fort impact de changement.
On parlait tout à l'heure donc par rapport à Caravalim de la notion d'injustice alimentaire. Comment tu l'abordes cette notion? Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi?
Moi je l'aborde avec mon sujet de recherche sur les aliments ultra transformés, parce que dans transformation des aliments et santé globale, j'étudie deux types de transformation, les produits fermentés dans un autre projet européen et les produits ultra transformés depuis 14 ans. Et il est très clair que dans les pays occidentaux, la France comprise, les aliments ultra transformés sont associés à des inégalités sociales et notamment de santé, c'est-à-dire pour faire les choses simplement. Les personnes qui ont le plus faible niveau d'éducation et qui sont aussi les moins riches, c'est celles qui consomment le plus les aliments ultra transformés, qui est de la malbouffe en fait, qui des fois est, comment dire, c'est une malbouffe qui ne dit pas son nom. Des fois on croit manger sain alors que c'est ultra transformé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend tous les aliments ultra transformés en France, dans les grandes surfaces, c'est à peu près en moyenne 17% moins cher si on prend des milliers de produits. Donc 17% moins cher, ça compte. Donc en fait, c'est des calories très bon marché qui ont été conçues pour être très attractives, voire addictives. En ajoutant plein d'agents cosmétiques très bon marché qui sont produits en masse sur la planète. Donc c'est des calories bon marché, très attractives, qui se vendent en masse à petit prix. Et évidemment, c'est plutôt les populations défavorisées qui les achètent le plus. On les trouve même dans l'aide alimentaire. Il y a beaucoup d'ultra transformés, malheureusement, parce que les grandes distributions, des fois, donnent les surplus de produits qui sont ultra transformés. Donc, c'est sous cet angle-là que je l'observe. Mais après, ce qui est assez paradoxal, c'est que dans les pays émergents et en développement, comme par exemple Nord-Afrique, l'ultra transformé est plutôt un signe extérieur de richesse. C'est les plus riches qui les achètent. Donc, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, ils sont importés, ils sont issus de grandes marques et acheter des produits de grandes marques, que ce soit Nestlé, Danone, Unilever, etc., c'est considéré comme un signe extérieur de richesse, de même que d'acheter des produits animaux. Donc on a vraiment deux mécanismes très différents, mais en tout cas dans nos pays, c'est vraiment le signe, et non seulement des inégalités sociales, mais aussi de santé, parce que ce sont ces populations qui les achètent le plus, qui sont les plus touchées par l'obésité et le diabète de type 2. Et on se retrouve notamment en milieu urbain et périurbain, plus qu'en rural, dans des déserts alimentaires. Certains parlent même de marécages alimentaires, dans le sens où il y a des endroits où il y a quasiment que des fast-foods ou que de la distribution alimentaire. Et notamment dans la grande distribution, 70% de l'offre industrielle est ultra transformée. Pour faire les choses simement, j'avais co-encadré une thèse de doctorat sur l'éducation à l'alimentation. On avait observé que les enfants des familles les plus défavorisées, leur représentation alimentaire, c'était plutôt d'abord le quantitatif, c'est-à-dire d'abord se mettre des calories dans le ventre, parce que c'est la première préoccupation, des calories très bon marché. Et puis plus on va vers des enfants de familles favorisées, plus on va vers du qualitatif, où là apparaît des mots-clés comme le fait maison, faire attention à la chimie, ou acheter bio. Donc on voit bien qu'on a un basculement du quantitatif vers le qualitatif. Et évidemment, il faut aller vers le qualitatif. Parce que si on se met des calories dans le ventre, même si elles sont bon marché, mais de mauvaise qualité, On peut faire le lit du surpoids, de l'obésité, et puis à plus long terme de diabète, de foie gras humain, etc. Donc voilà comment j'aborde l'angle des inégalités sociales liées à l'alimentation. On mange quasiment tous transformés, presque à 100%, parce que déjà peler un fruit ou le stocker, c'est déjà un début de transformation, hein, puisqu'il déjà il est modifié en termes de composition. Donc l'ultra-transformé, la définition est très simple, hein, c'est un aliment qui contient ce qu'on appelle un marqueur ultra-transformation, qui sont des composés cosmétiques pour modifier goût, couleur, arôme et texture. Donc par définition, le cosmétique n'est pas indispensable. C'est une forme de chirurgie esthétique de l'aliment, c'est-à-dire qu'on essaye de lui redonner une seconde vie et lui donner une belle apparence, une belle couleur, une texture agréable, un goût agréable, et donc ou des arômes agréables et qui sont des fois addictifs. Donc pour le consommateur, il faut repérer ces marqueurs d'ultra-transformation, ces agents cosmétiques. Donc on va trouver tous les colorants, les texturants, les modificateurs de goût, les arômes, et puis plein de sucres cachés qui sont ni des arômes ni des additifs. On va trouver des sirops de glucose, des amidons modifiés, des graisses hydrogénées, des isolats de fibres de protéines. Et puis tous ces produits de snack et pour les enfants du petit déjeuner qui sont des textures, des céréales cuites, extrudées ou soufflées, hein, très, très friables et qui fondent dans la bouche ou qui demandent très peu de mastication avec des index glycémiques très élevés. Voilà, c'est ça les aliments ultra transformés. En fait, il y a trois types d'additifs. Hein. Il y a les additifs qui apportent du nutritionnel, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux, etc. Donc ça, c'est pas de l'ultra-transformation. Vous avez des additifs de conservation, antiproliférateurs, antioxydants et conservateurs qui ne sont pas des marqueurs d'ultra-transformation, puisque l'objectif n'est pas cosmétique. Et enfin, il y a un troisième objectif des additifs, qui sont plus de 80% des additifs, de tous les additifs, des 330 additifs européens, qui sont les colorants, les texturants, les modificateurs de goût. Donc là, on est dans quelque chose qui n'est pas indispensable, qui n'est ni nutritionnel, ni de conservation, et qui est vraiment l'objectif recherché des industriels, qui est cosmétique, et le cosmétique n'est pas indispensable, alors que le nutritionnel et la conservation, c'est une autre problématique. Ça ne veut pas dire que tous les conservateurs sont sans risque, comme les nitrites, mais on est dans une autre problématique, on n'est pas dans du maquillage ou de l'artificialisation des aliments. Ce que je peux dire par rapport à des travaux qu'on a fait avec ma collègue Claire Planchat, qui coordonne le laboratoire vivant Planet Kids, c'est qu'en milieu rural, déjà, les enfants ont tendance à manger un peu plus de produits animaux, et moins d'aliments ultra transformés, parce qu'évidemment ils sont moins accessibles qu'en périurbain ou en urbain.
Donc, et le Nutri-Score aujourd'hui, c'est utile ou pas tant que ça finalement ?
Moi je pense que les gens connaissent mon positionnement. Pour moi, d'un point de vue scientifique, non. Les scores de composition, c'est l'outil qui a été privilégié aujourd'hui au niveau mondial dans de nombreux pays sur la planète, mais qui n'a pas fait ses preuves et qui n'a pas permis de faire reculer ni l'obésité ni le diabète, ce qui est normal. Donc moi je suis contre ces scores parce qu'un aliment sain n'est pas un aliment équilibré d'un point de vue nutritionnel, c'est l'aliment le moins transformé possible. Donc moi je suis pour des scores non pas ultra réductionnistes comme le Nutri-Score ou comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie ou en Amérique du Sud, je suis pour des scores plutôt holistiques et qualitatifs, c'est-à-dire où on ne quantifie pas mais on définit des critères de transformation. Voilà, pour moi c'est ça qui est important. Donc ce qu'il faut lire... c'est non pas la composition d'un aliment, parce qu'elle ne vous dira rien sur sa qualité globale et holistique, mais il faut plutôt regarder la liste des ingrédients. En fait, quand on achète, mais pour n'importe quel produit, quand vous l'achetez, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Quand vous achetez une voiture ou n'importe où un produit d'entretien, ce qui compte, c'est quelle est la qualité de la matière qu'il y a dedans. Donc là, ce n'est pas la composition, c'est bien les ingrédients initiaux. Donc là, un aliment de qualité, c'est un aliment qui a des ingrédients qui ne sont pas ultra transformés, qui n'a pas d'agent cosmétique, et qui sont des ingrédients idéalement sourcés avec une agriculture régénératrice. Mais ça, c'est une autre question. Effectivement, on peut quand même regarder dans les nutriments l'ajout de sel, sucre et gras. Mais c'est que l'ajout qui pose problème et non pas le sel, enfin surtout le sucre et le gras toto, parce que vous avez des produits naturels qui contiennent du gras toto, mais qui n'est pas ajouté, comme des avocats, des fromages pour le gras, des fruits séchés pour le sucre, mais c'est des sucres naturels, c'est pas des sucres ajoutés. Et ce qui pose problème en nutrition, c'est plutôt l'ajout. Parce que, par définition, ce qui est ajouté fait augmenter artificiellement la quantité. Voilà. Donc, effectivement, il faudrait une étiquette qui indique le degré de transformation de l'aliment. Je pense qu'on y viendra, mais le sujet étant plutôt jeune et récent, il a émergé qu'au début des années 2010, donc ça fait 15 ans à peu près, donc ce qui est un temps assez court en termes scientifiques. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, on y viendra. Bah, la règle des 3V, donc, on l'a élaborée en 2016, vrai, végétal, varié. En 2024, on a rajouté un quatrième V, la règle des 4V, pour le mode de production, parce que vous pouvez manger un régime 3V conventionnel ou issu d'une agriculture régénératrice. Donc le quatrième V vivant a été rajouté pour être complet et encore plus holistique, plus global, parce que donc, le V renvoie à une agriculture qui protège le vivant, donc tous les types d'agriculture régénératrice. Et donc il y a une hiérarchie à respecter. C'est d'abord vivant, dans l'idéal, pour ceux qui le peuvent, c'est-à-dire acheter des produits qui viennent d'une agriculture qui protège la vie. Ensuite, c'est vrai, puisqu'on achète les produits sur le vrai. Et une fois qu'on est dans des produits vrais et vivants, c'est par opposition aux faux aliments ultra transformés. Voilà, donc l'idée, c'est pas forcément de zéro ultra transformé, on peut en consommer de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est pas que ce soit la base, c'est que ce soit l'exception. À l'occasion, bah, à la limite, un produit ou deux par jour, il n'y a pas de souci. Donc, manger vrai. Et puis, une fois qu'on a des vrais aliments issus du vivant, on végétalise et on varie, cette fois-ci, pour la composition du régime et pour un équilibre nutritionnel intéressant. Et on sait qu'en augmentant les végétaux, on va augmenter les fibres, on n'en mange pas assez. On va augmenter les composés antioxydants, qui sont très importants dans la protection de la santé, puisque plus de 100 maladies chroniques chez l'humain sont liées à un stress oxydant excessif. Donc c'est très important, les antioxydants. Donc on les trouve dans tous les fruits et légumes colorés. Et puis le varié, bah, pareil, pour apporter le maximum de minéraux, vitamines, fibres, etc. Et puis les produits animaux, on les réduit. Nous, on propose 3 portions par jour maximum. Et puis on va vers des produits animaux de meilleure qualité, c'est-à-dire évidemment sans élevage intensif, que de l'extensif, des animaux qui ont été élevés dans des conditions respectueuses de leur bien-être. Alors évidemment, à un moment, l'animal est tué, ça, j'en suis conscient. On peut aussi être végétarien si on le veut. En tout cas, les régimes dérivés de la règle des 3V, c'est des régimes flexitariens que les gens connaissent, ou des régimes, on dit aussi démitariens. C'est aussi un terme scientifique qui est utilisé, mais ça veut dire la même chose. On va vers moins de produits animaux, mais de meilleure qualité, et on végétalise. Et je terminerai là-dessus. Pour végétaliser, c'est pour ça que le vrai vient en premier. On végétalise dans le vrai, parce que si vous ne sélectionnez pas les vrais aliments, vous allez végétaliser avec du végétal ultra transformé, qui sont des substituts de produits animaux, et d'ailleurs souvent très chers, comme les fromages, les steaks végétaux, mais qui sont souvent des faux aliments, c'est-à-dire qui sont vraiment des recombinaisons de marqueurs d'ultra-transformation. Et souvent, les premiers ingrédients dans ces aliments sont des marqueurs d'ultra-transformation. Des isolats de fibres, de protéines. Alors, ils ont un très bon Nutri-Score, certes, mais ça reste de la chimie comestible. Et on a quand même de plus en plus d'études maintenant qui travaillent sur les produits végétaux et la santé et qui les séparent en fonction du degré de transformation. Donc voilà un peu ce qu'est la règle des 3V. C'est facile à appliquer au quotidien. Et tout l'enjeu par rapport à la question de départ, c'est si vous n'avez pas trop d'argent, comment on peut manger 3V à petit prix. Et donc pour ça, j'ai travaillé avec l'université Clermont-Auvergne et des étudiants de cette université ces deux dernières années, où on a élaboré un guide pratique pour les étudiants pour manger 3V à petit prix. Voilà, donc ces deux guides 2024 et 2025 sont téléchargeables sur le site Écoscience, je crois, de l'université Clermont-Auvergne.
On va mettre le lien.
Voilà. Et donc, et puis j'ai des fiches 3V que j'ai élaborées sur mon blog personnel qu'on peut télécharger. Donc, on a voulu montrer qu'on peut manger sain et durable à petit prix.
Pour conclure, pour sortir un peu par le haut de cette problématique, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire cette question d'injustice alimentaire de manière générale, indépendamment de la géographie ?
Oui, alors ça, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi. Donc, moi, ma proposition, qui reste évidemment théorique, c'est de taxer les aliments ultra-transformés pour qu'ils soient plus chers que les vrais aliments, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ultra-transformés par l'ajout d'agents cosmétiques, qui sont des agents très bon marché, hyper standardisés, disponibles toute l'année, et donc très pratiques pour les industriels. Donc, il faudrait taxer les ultra-transformés en fonction du nombre d'agents cosmétiques, parce que c'est vraiment ces agents qui sont liés à une mauvaise santé, à une dégradation des systèmes alimentaires. Donc si vous avez un marqueur ou un agent cosmétique, on met une petite taxe. Et si vous en avez 10 ou 15, on met une grosse taxe. Ce serait logique puisque ces marqueurs sont liés à des coûts cachés, socio-économiques, environnementaux et santé. Et malheureusement, c'est des bénéfices énormes pour quelques-uns et ils ne payent pas les coûts cachés qu'ils génèrent et c'est nous qui les payons. Et c'est moi avec mes impôts qui paye leurs coûts cachés. Donc ça, c'est totalement injuste. N'ayons pas peur des mots. Donc il faudrait taxer ces aliments pour qu'ils soient plus chers et dans le même temps, utiliser l'argent de ces taxes pour rendre accessibles les vrais aliments aux plus défavorisés. Parce que si on fait que taxer les ultra-transformés, on va pénaliser doublement les plus défavorisés parce que leurs produits phares seront trop chers et les vrais aliments seront aussi trop chers. Donc il faut faire les deux en même temps.
Retrouvez les témoignages d'habitants, les interventions d'experts et les articles de synthèse sur le site de l'association Les Monts qui Pétillent, www.lesmontsquipetillent.org. Sans accent, tout attaché.